RFJ Info, Alexandre Rosset.
Bonsoir. La Confédération n'a pas pris suffisamment au sérieux l'évolution de la pandémie cet été. Elle a tardé à agir, selon la presse dominicale. Plusieurs journaux se montrent critiques ce week-end avec la stratégie des autorités. La crise sanitaire qui pousse Caritas Jura à se réinventer. La vente aux enchères de l'institution aura lieu principalement en ligne cette année. Le public pourra miser sur plus de 100 lots différents. Michèle Guizine a signé ce dimanche le meilleur résultat de sa carrière en slalom. La skieuse obvaldienne a pris la deuxième place de l'épreuve de Coupe du Monde de Lévis cet après-midi. Wendy Holdener a, elle, terminé au pied du podium. Le soleil sera encore au rendez-vous demain. La grisaille devrait facilement se dissiper d'ici la mi-journée. Les thermomètres frôleront la barre des 10 degrés. La polémique enfle en Suisse concernant la préparation de notre pays face à la deuxième vague du coronavirus. Le sujet a fait les gros titres de la presse dominicale ce week-end. Selon Le Matin Dimanche, qui a eu accès à des procès-verbaux de la Task Force Covid-19 de la Confédération, la gestion de la pandémie aurait déraillé pendant l'été à Sarah Massier.
Le journal affirme que la Confédération a réagi de manière hésitante et qu'elle a été freinée par un manque de soutien politique à de nouvelles restrictions. Pour plusieurs experts, l'erreur de la Suisse a été de laisser gonfler le nombre de cas au cours de l'été, sans trop s'inquiéter. Le journal souligne que le virus a commencé à regagner du terrain dès que le Conseil fédéral a réautorisé le 22 juin les manifestations de moins de 1000 personnes. Des affirmations confirmées par le délégué de l'OMS pour le coronavirus. Dans les journaux du groupe CH Media, David Nabarro y dénonce l'absence de mise en place d'infrastructures nécessaires pendant les deux mois estivaux. De son côté, la directrice de l'Office fédéral de la santé publique rejette ces accusations dans le Zone Tax Blick. Peu importe à quel point on se prépare, à la fin, on n'est pas prêt à tout, affirme Anne Lévy, qui admet que personne ne s'attendait à ce que les chiffres augmentent aussi rapidement.
La directrice de l'OFSP qui parle également d'une amélioration de la situation sanitaire liée à la pandémie. Une tendance à la baisse plus forte en Suisse romande qu'en Suisse alémanique selon la NZZ Am Sonntag et la Sonntag Zeitung. L'Office fédéral de la santé publique est par ailleurs en train d'élaborer une nouvelle stratégie pour maîtriser la pandémie. Si un cas positif se révèle au sein d'un groupe précis, ce dernier sera testé dans son ensemble au moyen des tests rapides. La démarche sera mise en place dans les semaines qui viennent, selon le porte-parole de l'OFSP. Daniel Dovalder donne comme exemple des écoles ou des EMS, mais n'en dit pas plus sur d'autres potentiels groupes visés. Le conseiller fédéral Alain Berset a été victime d'une tentative de chantage en novembre 2019. Le ministère public de la Confédération a confirmé hier une information de l'hebdomadaire Weltwoche. Une femme exigeait du ministre de la Santé le versement d'une somme de 100 000 francs pour éviter la divulgation de documents compromettants. Elle a été arrêtée le 12 décembre 2019 après le dépôt d'une plainte. La prévenue a été condamnée en septembre pour tentative de chantage. Selon l'ordonnance pénale, l'auteur du chantage présumé aurait usé de photos et de correspondances privées entre elle et Alain Berset. La France vient à son tour pour la première fois de détecter la présence du Covid-19 dans un élevage de visons près de Paris. Le gouvernement l'a annoncé aujourd'hui. L'abattage des 1000 animaux encore présents sur l'exploitation et l'élimination des produits issus de ces animaux ont été ordonnés. Plusieurs pays ont déjà signalé des contaminations, dont le Danemark qui a abattu plusieurs millions de visons ces dernières semaines. La vente aux enchères de Caritas Jura prendra une forme particulière cette année à cause de la crise sanitaire. L'événement se déroulera principalement en ligne dès vendredi et jusqu'au 13 décembre. Les personnes intéressées par des objets récupérés par l'atelier valorisation des dons pourront ainsi directement miser sur Internet. Le catalogue comprend 120 lots. Le responsable de la vente nous explique ce que le public pourra notamment y trouver, Baptiste Préto.
C'est vrai qu'on aime offrir une variété hein, dans les objets proposés pour que ça puisse plaire à un plus grand nombre et pour que tout le monde puisse y retrouver, hein, autant la personne spécialisée dans un domaine de collection bien précise ou au simple curieux qui veut avoir une décoration chez lui. Donc on pourra retrouver autant des ouvrages anciens que des verreries de renom, hein, du Dôme, du Saint-Lambert, aussi des pattes de verre dans le style Art Nouveau. On va aussi avoir de l'art asiatique, africain, des jouets vintage. En tôle lithographiée, on va aussi avoir des objets traditionnels suisses, je dirais, et aussi une belle sélection d'œuvres d'artistes jurassiens connus.
Notez qu'il sera aussi possible de faire des mises par le biais d'ordres d'achat manuscrits. Toutes les propositions seront dépouillées le 14 décembre en présence d'un notaire assermenté et l'enchère la plus haute remportera le lot. C'est un produit sorti de leur pure imagination. Geoffrey Schrago et Sébastien Kfeller, deux étudiants à l'école de commerce de Delémont, ont créé un porte-téléphone avec du bois de la région. Leur projet s'inscrit dans le cadre de leur cours de pratique intégrée et des junior entreprises. Concrètement, le support permet par exemple de regarder une vidéo ou de lire une recette sur un smartphone sans avoir à tenir l'appareil. Du prototype jusqu'à la réalisation, leur objet a pas mal évolué, comme nous l'explique Geoffrey Schrago.
Tout d'abord, on voulait faire un porte-téléphone qui était accessible à tous les téléphones. Donc on a commencé avec une encoche ronde et cela marchait avec peu de téléphones. Il n'y avait que les téléphones à grosse coque qui tenaient dessus. Donc on est passé sur une double encoche pour pouvoir justement en différer les tailles. Et à ce moment-là, le porte-téléphone n'était pas assez stable par rapport au poids des téléphones. Donc on est passé sur une encoche rectangulaire et puis on a agrandi la taille du porte-téléphone.
Un aspect aussi sur lequel vous avez misé, si on veut, c'est l'aspect local. C'était une volonté d'avoir vraiment quelque chose régional, si on veut.
Oui, c'était une volonté parce que nous, on est actuellement avec les problèmes climatiques qu'il y a actuellement. On voulait vraiment faire quelque chose de régional, puis aussi qu'il soit disponible pour les Jurassiens et qu'ils s'attachent aux produits et du fait qu'il soit local et que le bois soit aussi local.
Les deux étudiants de l'école de commerce de Delémont ont déjà convaincu plusieurs commerces de Delémont de vendre leur porte-téléphone à partir du 1er décembre. Sport. L'équipe de Suisse féminine de ski alpin fête son premier podium de l'hiver. Michèle Guizine a pris la deuxième place du slalom de Coupe du Monde de Lévis aujourd'hui. L'Obvaldienne a été devancée de 31 centièmes par la Slovaque Petra Vlova qui s'était déjà imposée la veille entre les piquets sur la piste finlandaise. Le podium est complété par l'Autrichienne Katharina Linsberger. Wendy Holdener a terminé quatrième juste devant l'Américaine Michaela Schifrin. Michèle Guizine a réussi là le meilleur résultat de sa carrière slalom, Olivier Zano.
Et il n'a pas manqué grand-chose à Michèle Guizine pour décrocher sa première victoire en Coupe du Monde. Une victoire en slalom que la Suisse attend d'ailleurs depuis plus de 18 ans et un succès de Marlies Öster. Mais après sa cinquième place de la veille, Michèle Guizine a montré qu'elle pouvait regarder les meilleurs de la discipline droit dans les yeux. À l'aise sur le plat, convaincante dans la pente, elle a sans doute perdu la course sur le haut du tracé où elle a concédé du temps à Petra Vlova lors des deux manches. La polyvalente obvaldienne compte désormais un podium dans toutes les disciplines, sauf en géant où elle se rapproche gentiment des meilleures. Ce bilan très positif est complété par les deux quatrièmes places obtenues par Wendy Holdener ce week-end à Lévis.
À noter que la neuchâteloise des Rémence, Mélanie Meillard, est partie à la faute sur le premier tracé aujourd'hui après sa brillante 9e place obtenue la veille en Finlande. Le monde du ski suisse a par ailleurs appris une triste nouvelle. La tessinoise Doris De Agostini s'est éteinte à 62 ans, selon le portail internet tessinois tio.ch. La skieuse d'Airolo était une brillante descendeuse, discipline dans laquelle elle a décroché le bronze mondial en 1978 et le petit globe de la Coupe du Monde en 1983. Doris De Agostini a signé 8 victoires et 19 podiums durant une carrière assez courte, puisqu'elle avait décidé d'arrêter la compétition à seulement 25 ans. En Super League de football, il n'y a pas eu de vainqueur lors des rencontres de cet après-midi. Lausanne a ramené un point de son déplacement chez le 3e Saint-Gall. Score final 2-2. Même résultat entre Sion et Zurich, alors que Servette a fait match nul 1-1 face à Lugano, qui est 2e du classement. Les Suisses ont terminé hors des points lors du Grand Prix de Moto 2 du Portugal. Les Bernois Thomas Lutti et Dominique Egerter ont fini 16e et 20e aujourd'hui à Portimao. La victoire est revenue à l'Australien Rémi Garner, tandis que l'Italien Enea Bastianini s'adjuge le titre mondial au terme de cette dernière course de la saison. Le Portugais Miguel Oliveira s'est lui imposé en Moto GP. En Moto 3, Raúl Fernandez a franchi la ligne en tête, alors qu'Albert Arenas est sacré champion du monde. Le fribourgeois Jason Dupaquier s'est classé 23e. Michael Vogt grimpe à nouveau sur la boîte en Boba 2. Comme hier, le pilote suissois et son pousseur Sandro Michel ont fini 3e cet après-midi à Sigulda en Lettonie. Le circuit de tennis va couronner un nouveau maître. Dominic Thiem et Daniel Medvedev tenteront de remporter le Masters pour la première fois de leur carrière ce soir. La finale entre l'Autrichien et le Russe se tiendra à 21h à Londres. C'est la cinquième année de suite que le dernier tournoi de la saison va sacrer un champion inédit. Les précisions d'Émilie Mumenthaler.
C'est bien à Londres que les contours de cette relève tant attendue se dessinent le mieux. Elle est symbolisée cette année par cette affiche entre Dominic Thiem et Daniil Medvedev. Ils ont réussi l'un et l'autre à battre successivement les deux meilleurs joueurs du monde cette semaine. Les trentenaires Novak Djokovic et Rafael Nadal qui sont de moins en moins seuls sur leur planète lorsque le match se joue au meilleur des 3-7. Cette finale aura des airs de revanche pour le Russe, battu en demi-finale du dernier US Open par Dominic Thiem, qui en avait profité pour s'adjuger son premier grand chelem. C'est aussi l'occasion pour Daniil Medvedev de remporter le plus beau titre d'une carrière qui a pris l'ascenseur depuis 18 mois. L'Autrichien tentera lui d'ajouter une nouvelle ligne prestigieuse à son palmarès, une sorte de confirmation après avoir échoué au même stade l'année passée devant le grec Stefanos Tsitsipas. Cet ultime match dans l'O2 Arena promet d'être spectaculaire et tendu malgré l'absence de public. Si les deux joueurs sont parfaitement légitimes pour soulever le trophée, un seul conclura cette saison particulière en beauté.
Et la finale de ce Masters de tennis, c'est donc ce soir à 21h entre Dominic Thiem et Daniil Medvedev. Il faudra compter avec des bancs de brouillard jusque vers 700 à 800 mètres d'altitude demain matin. La grisaille devrait se dissiper assez facilement pour laisser place à un temps largement ensoleillé. Le ciel sera toutefois parcouru par des nuages d'altitude parfois nombreux, surtout le matin. Les températures minimales seront comprises entre moins 3 et 0 degrés et les maximales entre 7 et 9 degrés demain. De mardi à vendredi, les conditions resteront calmes et anticycloniques.